Chapitre 2 Le serment d'Ouascar, un pacte solennel. Le marquis n'était pas plus tôt arrivé dans la chambre que Ouascar faisait son entrée, suivi de Raymond et Natividad comme un prisonnier de ses deux gardiens. L'Indien enleva son chapeau, souhaita le bonjour en aïmara au marquis, Dios anik turata, ce qui pour un quichua était une marque de grande vénération, car cette langue était celle adoptée par les prêtres incas au moment de l'interahimi et lorsqu'ils parlaient aux foules réunies dans le culte du soleil. Puis, comme le marquis le dévisageait sévèrement sans répondre à cette politesse, il prit la parole en espagnol. « Seigneur, dit-il d'une voix rude mais calme, je vous apporte des nouvelles de la señorita et de votre fils. » Si le Dieu des chrétiens, que ma bienfaitrice et les paresses m'ont appris à invoquer, seconde le bras de Ouascar, ils vous seront bientôt tous deux rendus en bonne santé. Cristobal, en dépit des sentiments tumultueux qui l'agitaient, et de son impatience à connaître le but et le plan de Ouascar, s'attachait de se montrer aussi froid, aussi maître de lui que l'Indien. Il croisa les bras et demanda « Mais pourquoi toi et les tiens ont-ils commis le crime de les enlever ?» Ouascar répliqua « Et pourquoi toi et les tiens ont-ils commis celui de les laisser prendre ? N'avais-tu pas été averti ? As-tu pu douter que ce pût être par un autre que par Ouascar ? Ouascar, pour toi, a trahi ses frères, son Dieu et sa patrie. Mais il s'est souvenu que la madre de la señorita a ramassé un jour à Calao un enfant tout nu, et il a juré de sauver la señorita du terrible honneur d'entrer dans les demeures enchantées du soleil. » L'homme se tut. Le marquis lui tendit la main, il ne la prit pas. « Gracias, señor, » remercia la voix rauque de l'Indien. Et un triste sourire erra sur ses lèvres pâles. « Et mon fils, Ouascar, me le rendras-tu aussi ? Votre fils ne court aucun danger, seigneur. Ouascar veille sur lui. » « Oui, oui, tu veilles sur mon fils, tu veilles sur ma fille, et demain peut-être je n'aurai plus d'enfant. » « Tu n'auras plus d'enfant, » répliqua Ouascar de plus en plus sombre, « si tu ne fais pas tout ce que te dira Ouascar. Mais si tu fais tout ce que te dira Ouascar, je te jure, sur les mandats de Hualpa, qui attend ta fille et que je trahis, pour ma damnation éternelle, que la señorita sera sauvée. Et que faut-il faire ? Rien. Voilà pourquoi Ouascar est venu te trouver. C'était pour te dire, ne fais rien, reste ici, toi et tes amis. » N'approchez plus de la petite maison en adobe du Rio Chili. Ne poursuivez plus les ponches rouges. N'excitez pas leur surveillance. Cessez de les mettre en garde et laissez-moi agir. Je réponds de tout si tu me donnes ta parole que ni toi ni les tiens, on ne vous verra plus rôder autour de nous. Ils vous connaissent. Votre apparition, si mystérieuse soit-elle, est immédiatement signalée, et les mamaconas font la chaîne noire autour de la fiancée du soleil, prêtes à la tuer à l'apparition des premiers visages étrangers, et à l'offrir morte à Atahualpa, s'ils ne peuvent la lui donner vivante. Ne quittez point cette auberge, ou tout au moins ne sortez pas des limites de cette place. Oh, si tu me jures cela, je puis déjà te promettre une chose. C'est que cette nuit, environ à minuit, je t'amènerai ici ton fils, ton bien-aimé Cristobal, et que ta fille suivra bientôt dans tes bras. » Le marquis alla détacher un petit crucifix attaché à la muraille au-dessus du lit, et il revint à Ouascar. « La marquise t'a fait élever dans notre sainte religion, dit-il. Jure-moi que tu ne feras bien ce que tu viens de dire, jure-le, moi, sur le Christ. » Ouascar étendit la main et jura. Moi, fit-il au marquis, après avoir juré, moi, Je n'ai besoin que de votre parole. Tu l'as, déclara Cristobal. Et nous t'attendons ici à minuit. À minuit, répéta Huascar, qui remit son chapeau et gagna la porte. Messieurs, demanda le marquis en se retournant vers Raymond et Natividad, quand on entendit les pas de l'Indien dans l'escalier, j'ai donné ma parole, nous la tiendrons. Je crois fermement que Huascar nous sauvera de cette terrible aventure. Nous n'avons aucune raison de douter de lui après la preuve qu'il nous a donnée par deux fois de son dévouement, en nous avertissant à Caramarca et à Lima. C'est mon avis, dit Natividad. Mais Raymond se taisait. Plusieurs fois, il avait fixé le regard de l'Indien et lui semblait bien n'y avoir point trouvé cette franchise héroïque qu'il étalait dans ses discours. Qu'en dites-vous, Raymond? Quel effet vous a-t-il produit? Un mauvais effet, répliqua le jeune homme. Maintenant, je me trompe peut-être. Je sens que Huascar me déteste et moi je ne l'aime pas. Nous sommes dans un mauvais état d'esprit pour nous juger l'un l'autre. En attendant, nous sommes ses prisonniers, termina-t-il. Mais la triste réflexion de Raymond se perdit dans le bruit que Natividad faisait en ouvrant la fenêtre. En même temps, il s'écria, « Mais je vous assure que j'ai vu cette figure-là quelque part. » Moi aussi, elle ne m'est certainement pas inconnue, dit Cristobal, qui était venu se placer à côté de Natividad. Raymond les rejoignit. Il aperçut sur la place le grand squelette de vieillard qu'il avait vu sous la voûte. Toujours appuyé sur son bâton, s'arrêtant encore et se dissimulant d'une façon enfantine, ici derrière une charrette, là derrière un auvent, il suivait Huascar. L'Indien s'était retourné deux ou trois fois du côté de l'homme et puis avait poursuivi son chemin sans autrement s'en préoccuper. Tout à coup, le marquis, qui était resté pensif à la fenêtre, se recula très pâle. « Oh ! Fit-il, mais je reconnais cet homme. C'est le père de Maria Cristina de Rellana. » Natividad, dans le même moment, fit entendre une sourde exclamation. « Oh oui, oui, c'est lui. Nous l'avons tous connu à Lima avant son malheur. » Ils restèrent sous le coup de l'apparition de ce fantôme qui avait surgi devant eux comme pour leur rappeler que lui aussi avait eu une fille, belle et aimée, une fille qui avait disparu 10 ans auparavant pendant les fêtes de l'Interaimi, une fille qu'il ne reverrait jamais plus. De ce malheur, le marquis ne doutait point maintenant. Il se laissa tomber atterré sur une chaise, et quand on lui servit son repas, il ne toucha aucun plat, malgré les encouragements de Natividad qui lui rappelaient les promesses de Huascar. Quant à Raymond, après avoir entendu l'exclamation du marquis, il était descendu sur la place, et au coin de cette place où se trouve une rue qui conduisait à la petite maison en adobe de Rio Chili, il rejoignit le grand squelette du vieillard et lui mit la main sur l'épaule. L'autre se retourna et un instant fixa Raymond. « Que me voulez-vous ? » lui demanda-t-il d'une voix sans force et sans accent. « Bien, je voudrais savoir pourquoi vous suivez cet homme. » Et il lui montra Huascar qui tournait le coin de la calle. « Comment, vous ne le savez pas ? » fit le vieillard étonné. Vous ignorez donc que nous serons bientôt au grand jour de l'Interaimi. J'ai suivi cet homme qui commande l'escorte de l'épouse du soleil. C'est lui le chef de ces poulches rouges qui mène ma fille au Cusco en l'honneur du grand Atahualpa. Mais cette fois-ci, je ne la laisserai pas mourir comme la dernière fois. Je la sauverai et nous reviendrons bien tranquillement à Lima, où son fiancé l'attend. Gracias, señor. Et il s'éloigna de toute la longueur de ses jambes en s'appuyant sur son bâton. Le malheureux est fou, dit tout haut Raymond, qui se prit la tête entre les mains, comme s'il craignait que sa raison devât à lui échapper à lui aussi. Plus encore que pendant leur ardente poursuite sur la Costa, plus même qu'à l'heure atroce où il avait découvert leur rapt, il souffrait. Cette situation extraordinaire d'immobilité à deux pas de Marie-Thérèse, vouée au supplice et enfermée dans une maison, en pleine cité civilisée, lui emplissait le cœur d'une douleur furieuse. Ne pouvoir rien faire, rien, qu'attendre tout du bon plaisir, de la reconnaissance et peut-être de la traîtrise de Huascar. Mais enfin, les heures s'écoulaient, pensait-il en fermant ses poings impuissants. Il faudrait faire quelque chose, ne pas se laisser arrêter par les gardes, les soldats de Garcia qui veillaient inconsciemment sur cette proie sacrée. Il rêvait de se ruer jusqu'à la petite maison en adobe, d'essuyer le feu des miliciens et des ponches rouges, de forcer le seuil de cette prison, d'y pénétrer sanglant et râlant et d'arriver pour expirer aux pieds de Marie-Thérèse. Et puis après, est-ce cela qui la sauverait ? Non, le marquis avait raison, il fallait se contenir, réfléchir, agir par la ruse, essayer de soudoyer ces misérables, entrer en rapport avec eux. On verrait bien ce qui resterait à faire à minuit quand Huascar reviendrait. Minuit, oh, comme cela lui paraissait loin. Il avait fait 10 fois le tour de la place, se demandant s'il n'était pas possible de soulever cette ville en lui criant la vérité. N'y avait-il pas dans ces maisons, derrière ces galeries, ces drapeaux, ces guirlandes, toute une population qui se révolterait à l'idée que ces abominables Indiens allaient sacrifier une chrétienne ? Il fut sur le point de s'arrêter au milieu de la place et de hurler « au secours !» mais un grand tumulte de musique et de chants de fête le fit se détourner. Là-bas, du fond d'une calier lointaine, accouraient des rumeurs de fête et il la vit, cette population qu'il voulait soulever contre Garcia et qui n'obéissait qu'à Garcia. Et celui-ci avait dit, comme Pilate devant Jésus, qui s'en lavait les mains. Elle approchait au bruit des tambours et des trompettes et à la lueur des torches et des lampions, car le soir était tombé. Ce qui arriva sur la place était une cavalcade et aussi une procession. Il y avait des torches et aussi il y avait des cierges. Il y avait des drapeaux, des croix et de mystérieux emblèmes qui dataient peut-être de 2000 ans. Les Pares, qui constituent là-bas tout le clergé de l'intérieur des terres, n'ont pu avoir quelque influence sur les Indiens qu'en ne heurtant pas les antiques superstitions et dans une manifestation à la fois civile, patriotique et religieuse comme celle-là, on voyait s'amalgamer de la façon la plus bizarre et aussi la plus sauvage le christianisme et le paganisme particulier aux Indiens. Évidemment, la haute société du Pérou, ni même celle d'Atahualpa, n'était là représentée, mais il y avait sur cette place, flamboyante maintenant, comme si on y avait allumé un incendie, la masse de la population délirante, chantant des cantiques, riant et fumant et buvant et dansant, cependant que les éternels cohetes, les pétards, éclataient dans les jambes de tout le monde. Quelques-uns entrèrent à l'église en continuant de danser et les autres au théâtre où ils observèrent tout de suite le plus religieux silence. On y attendait le dictateur pour commencer la représentation. Raymond, de plus en plus furieux, s'était croisé les bras regardant passer les débordements populaires. Rien à faire avec ces brutes. Et il résolut d'aller à la petite maison en adobe, en dépit de ce qu'avait dit Huascar, Violant sans remords la parole du marquis, il quitta la place, serrant nerveusement dans la poche de son veston son revolver. Quelle folie allait-il commettre? Que voulait-il faire? Et c'est justement ce que lui demanda Huascar lui-même, qui venait de se dresser devant lui. « Seigneur, où allez-vous ? » Il lui avait posé sa main sur le bras en l'arrêtant. « Vous savez bien où je vais, » répondit rudement Raymond. Et il voulut passer, où Huascar s'y opposa. « Rentrez chez vous, seigneur, » lui dit l'Indien d'une voix calme. « J'y serai dans 2 heures avec le petit marquis, mais je ne réponds plus de votre fiancé si vous faites un pas de plus. » La voix de Huascar avait tremblé sur ces mots, « votre fiancé ». Raymond regarda Huascar. Il ne vit que de la haine dans les yeux de l'Indien. « Marie-Thérèse est perdue, » se dit-il dans un âpre désespoir. Soudain, une lueur sublime éclaira l'abîme où il se sentait rouler avec Marie-Thérèse. « Huascar, » fit-il sur un ton solennel, « si vous sauvez la fille du marquis de Latorre... » Il s'arrêta un instant, car son cœur battait, son thorax de coups si durs qu'il put croire qu'il allait étouffer. Les quelques secondes de silence qui précédèrent ce qui lui restait à dire à Huascar, ce qui devait être dit, lui parurent éternels et il devait à jamais conserver dans sa mémoire le cliché barbare de ce coin de rue sombre et désert, de cette arcade obscure sous laquelle l'Indien et lui s'étaient réfugiés, et où leur arrivaient par intermittence les clameurs de la Plaza Mayor et le bruit tout proche des coatès que les petits garçons faisaient éclater dans les cahiers voisines sous les pieds des passants. Sur la droite, il y avait à une fenêtre d'un premier étage le clignotement de veilleuses d'une demi-douzaine de verres de couleur dans lesquels la famille d'Arequipenos, qui habitait là, avait allumé les petits disques de cire en l'honneur de Garcia avant de se rendre aux joies de la retraite au flambeau ou au triomphe du grand théâtre. Il attendit qu'un Indien qui marchait courbé sous le poids d'un stock de pelliones, couverture de sel, se fût éloigné du pavé du côté du Rio Chili, et ce ne fut que lorsqu'il n'entendit plus sur les pavés le glissement du polio dont les Quichua chaussent leurs pieds nus qu'il parla. Peut-être inconsciemment attendait-il que quelque événement l'eût empêché de dire cette chose que l'autre écouta sans plus remuer qu'une statue. Si tu la sauves, je te jure sur mon Dieu que Marie-Thérèse ne sera pas ma femme. Huascar ne répondit pas tout de suite. Un tel marché devait l'avoir pris au dépourvu. Enfin, il dit « Bon, je la sauverai, et maintenant va-t'en, rentre à l'auberge, j'y serai à minuit. » Et il prit le chemin du Rio Chili sans plus s'occuper de Raymond. Celui-ci retourna à la Plaza Mayor, étourdi, les oreilles bourdonnantes, persuadé qu'il avait délivré Marie-Thérèse. Il vivait à ce point dans son rêve intérieur et jouissait si âprement de son sacrifice et de sa victoire qu'il ne vit rien de ce qui se passait autour de lui et qu'il faillit se faire écraser par une escorte de hussards qui bousculait la foule sur son passage. Il fallut bien alors qu'il levât la tête. Au centre de cet escadron, galopant, il aperçut une calèche traînée par 4 chevaux harnachés comme pour le mardi gras. Dans la calèche, 2 hommes, le général Garcia avec tous ses galons, toutes ses décorations, toutes ses plumes, et à côté de lui, en correct habit noir encadrant l'irréprochable cuirasse du plastron blanc, la figure calme et mystérieuse d'Oviedo Luntu. Dès qu'il eut reconnu ce dernier, Raymond fonça sur la foule, les poings prêts pour l'étranglement. Mais il fut roulé par le flot populaire et se trouva dans une salle de théâtre, sans pouvoir se rendre exactement compte de la façon dont il était entré là. Il voulut ressortir immédiatement, mais il n'y réussit point. Garcia, penché au-dessus de la loge présidentielle, entouré de son resplendissant état-major, dont les broderies scintillaient au feu de la rampe, saluait la multitude qui l'acclamait. Raymond était placé de telle sorte qu'il ne pouvait voir Oviedo Luntu, lequel se dissimulait modestement derrière une colonne de la loge, laissant le général aux prises avec la gloire. Le public criait et battait des mains avec transport. Où l'on retrouve l'oncle Gaspard. Une actrice de Paris, de la Comédie-Française, vint réciter des strophes espagnoles où Garcia était traité de « sauveur de la patrie ». Un ridon de fond s'écarta et laissa voir sur un socle un buste de général qui avait servi déjà plusieurs fois à d'autres généraux et qui cette fois représentait le général Garcia. Ce monument était entouré par toute la troupe qui entonna un chœur. Après quoi, chaque artiste défila avec un petit compliment à la statue et des palmes et des couronnes dont ils la recouvrirent. Au moment où le buste allait disparaître sous ce fait glorieux, une demoiselle habillée en indienne quichua, avec la petite veste de laine échancrée sur la poitrine et une douzaine de jupes de différentes couleurs mises les unes sur les autres, et la mante de laine aux épaules retenue sous le menton par une grosse épingle d'argent en forme de cuillère, se présenta. Elle fut immédiatement accablée par tout l'élément indien de la salle. Et elle aussi, pour prouver que rien ne manquait au succès de Garcia, chanta quelque chose, mais en indien, quelque chose dans quoi le peuple indien mettait également tout son espoir dans le sauveur de la patrie. Le dernier couplet envolé, elle cria, comme il convenait, « Vive le général Garcia !» Mais des voix lui répondirent aussitôt par « Vivuaina Capacruntu !» Oh, ce fut un beau tapage. Tous les Indiens de la salle étaient debout et aussi de nombreux métis qui se rappelaient leur origine et qui étaient là d'être méprisés par les Blancs et hurlaient « Vivuaina Capacruntu !» tandis que la classe purement péruvienne dans les loges s'abstenait de toute manifestation. Cependant, dans la loge présidentielle, le général Garcia attirait sur son cœur constellé le plastron éclatant de blancheur du commis de la banque franco-belge et donnait l'accolade devant tous à l'illustre descendant des rois incas. Ce fut du délire. La représentation était terminée. Raymond fut poussé dehors comme on l'avait poussé dedans. Il en avait assez vu pour comprendre l'inutilité de la démarche du marquis auprès du dictateur. Celui-ci ne pouvait rien contre les Indiens et le véritable maître était Oviedo. Raymond n'avait plus d'espoir qu'au Huascar. Il était 11 heures, il courut à l'auberge. Il trouva le marquis et Natividad inquiets de son absence et de tout ce qu'il avait pu faire pendant ce temps. Pour ce qui était de François Gaspard, personne ne l'avait revu depuis l'arrivée à Arequipa et personne ne s'en préoccupait. Raymond leur apprit qu'il avait rencontré Huascar et que celui-ci avait renouvelé les promesses faites au marquis et de telle façon qu'il croyait maintenant à sa bonne foi. Enfin, le rendez-vous était toujours pour minuit. Il devait lui amener le petit Cristobal. Ils ne dirent plus rien jusqu'à minuit, regardant derrière les fenêtres s'ils n'apercevaient point sur la place quelque chose qui pût confirmer leur espoir. Natividad était aussi anxieux que ses deux compagnons. Natividad avait bon cœur et il s'était jeté si avant dans l'aventure qu'il lui était maintenant difficile de reculer sans qu'il perdît quelque chose de sa propre estime. Enfin, il était si fort compromis au point de vue administratif que, toute réflexion faite, Il valait encore pour lui mieux suivre jusqu'au bout le marquis, lequel, quoi qu'il arrivât, ne le laisserait pas mourir sur la paille. Ainsi, l'heure de minuit arriva et les 12 coups sonnèrent à l'église. Le théâtre s'était vidé depuis longtemps. La place maintenant était à peu près déserte. Les lampions s'étaient éteints. Mais la nuit était claire et l'on pouvait très bien distinguer les ombres qui, le long des arcades, regagnaient leur domicile. Aucune d'elles ne se dirigeait vers l'auberge du Jockey Club. Minuit un quart, aucun des 3 hommes qui étaient là n'osait prononcer une parole. À minuit et demi, rien encore. Le marquis poussa un effrayant soupir. À 1 heure moins un quart, Raymond s'approcha de la petite lampe fumeuse qui brûlait sur une table. Il examina minutieusement son revolver, en constata le bon fonctionnement, l'arma et dit d'une voix sourde: Oscar nous a trahis. Il nous a joués comme des enfants. Il est venu ici sans se cacher en plein jour, ne craignant pas d'avoir à répondre d'une pareille démarche auprès des siens. Il était d'accord avec eux. Il a réussi à nous tenir ici enfermés pendant des heures dont nous connaîtrons le prix. Bon, je n'ai plus aucun espoir. Marie-Thérèse est perdue, mais je pénétrerai jusqu'à elle ou je mourrai avant elle. Et il sortit. Le marquis ne dit rien, mais il s'arma lui aussi et suivit Raymond. Natividad suivit le marquis. Ils traversèrent la place, et quand ils furent dans la petite ruelle qui conduisait à la maison en adobe, Natividad demanda au marquis ce qu'il comptait faire contre une cinquantaine d'hommes armés. Oh, le premier Poncherouge que je rencontre, je lui offre 1000 sols. Pour causer, reprit-il, et s'il ne prend pas ou s'il ne comprend pas, je lui brûle la cervelle, après on verra. Quand ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient été arrêtés dans la journée par un hussard quichua de la troupe de Garcia, ils s'étonnèrent de ne plus avoir à parlementer avec cette sentinelle. La voie était libre, ils en conçurent un nouvel espoir. Mais quand ils eurent fait encore une centaine de pas et qu'ils aperçurent la petite maison en adobe sans garde et la porte ouverte, un horrible pressentiment leur serra le cœur. Ils se précipitèrent, ils s'engouffrèrent dans la masure. Les pièces en étaient désertes. Dans l'une d'elles régnait cette odeur particulière, ce parfum violent de résine odorante qui avait déjà frappé le marquis de Natividad quand ils avaient pénétré dans la première salle de l'Hacienda Don Degardo sur la route de Chorillos. Oh, le parfum magique! Soupira Natividad. Marie-Thérèse, ma fille, Cristobal, mon enfant chéri, gémissait le marquis. Où êtes-vous? C'est là que vous nous avez attendus, c'est là que nous aurions dû vous sauver. Son désespoir et ses vaines paroles furent interrompus par le bruit d'une lutte sur le seuil. Ils coururent. Raymond venait de maîtriser un métis qui tremblait de terreur entre ses mains. C'était le maître de la masure qui revenait d'on ne sait où et qui était ivre. Oh, la menace de mort lui rendit toute sa lucidité et il dut dire ce qu'il savait. Une voiture fermée était entrée dans la cour vers les 11 heures du soir. Il ne savait pas qui on avait fait monter dans cette voiture, mais un certain nombre de femmes et tous les Poncherouges l'avaient accompagné à pied jusqu'à la gare. Il pouvait l'affirmer puisqu'il avait suivi le cortège par simple curiosité, car il avait été payé. À la gare, l'Indien que l'on appelait Oscar l'avait aperçu. Il lui avait donné de l'argent pour qu'il s'éloignât en lui faisant promettre qu'il ne retournerait pas chez lui avant le lendemain matin. Le misérable, gronda Raymond, il se doutait bien que nous viendrions ici. À la gare, vite! Et quand ils y arrivèrent, Ils eurent toutes les peines du monde à trouver un employé endormi sur une banquette qui ne fit aucune difficulté pour leur apprendre qu'une troupe d'Indiens s'était embarquée vers 11h15 dans un train spécial commandé dans l'après-midi par les soins d'Oviedo Luntu pour ses serviteurs. Cet employé, après avoir assuré le marquis qu'il ne pourrait avoir aucun train spécial dans la nuit, à quelque prix que ce fût, et lui avoir conseillé, dans le cas où il voudrait se rendre à Simiani, d'attendre le convoi du matin, se rendormit paisiblement. Ce fut une nuit sans nom pour les trois voyageurs. Ils essayèrent en vain de pénétrer encore jusqu'à Garcia et errèrent jusqu'au matin dans les rues. Cristobal commençait à divaguer et à montrer les marques avant-coureuses de la folie. Raymond retourna à la maison en adobe et se jeta à genoux dans la pièce la plus reculée qui était encore tout imprégnée du parfait magique. Il la remplit de ses sanglots. Au départ du train, ce furent trois spectres qui montèrent dans un même compartiment. Natividad était presque aussi malade que les deux autres. Cette fabuleuse course à la mort avait fini par les jeter hors de l'humanité. Les voyageurs qui les aperçurent s'enfuirent littéralement comme s'ils avaient vu des fauves. Raymond et le marquis avaient des mouvements de mâchoire de bêtes enragées. Le train n'allait que jusqu'à Sicuani, mais ils n'y arrivèrent pas le même jour. Ils durent descendre, passer la nuit à Juliacar, à 4 000 mètres d'altitude, et là encore trouvèrent la trace du passage récent de la troupe indienne. Le froid était âpre et cinglant, et le mal des montagnes les entreprit, les étourdit, les assomma sur des banquettes, et ne les quitta que le lendemain à Sicuani, gros village quichua qui était entièrement désert. Heureusement pour eux, de Sicuani au Cuzco, il y avait un service automobile qui fonctionnait toujours malgré les troubles politiques et militaires. Le marquis, qui voulait ne se fier à personne, acheta pour un prix fou une auto, dans l'arrière-pensée qu'elle pourrait servir à autre chose qu'à faire honnêtement le voyage. En sortant de la cour de la gare avec leur auto, ils trouvèrent l'oncle François Gaspard, qui venait à eux, tranquille, dispos et frais comme l'œil. « Eh bien, qu'est-ce que vous êtes devenu ?» leur demanda le bon savant. « Moi, je vous ai perdu à Arequipa, mais je me suis dit, on se retrouvera toujours autour des pôles rouges. Alors, comme j'en ai rencontré un, je ne l'ai pas quitté. Je l'ai suivi jusqu'à une petite maison qui était au bord d'une rivière et qui était gardée par des soldats. Je me suis dit, c'est là qu'est notre pauvre Marie-Thérèse et notre petit Cristobal. Et je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu. Alors, je me suis dit, ils sont partis en avant des poules rouges, car on sait où ils vont, n'est-ce pas, pour ces cérémonies-là. Ainsi, la nuit, quand ils ont pris le train, je suis parti avec eux. À la gare, on me disait, « Impossible, c'est un train spécial. » Mais j'ai donné 200 lettres à l'employé et je suis monté dans le fourgon. À l'arrivée, je vous ai pas vu. À Cuzco, pas davantage. Alors je me suis dit, « Ils vont arriver par le train du lendemain matin. » Et me voilà. François Gaspard ne se doutait pas qu'il courait dans la minute le risque d'être assassiné par le marquis, par Raymond, qui l'eût très simplement tué et supprimé pour ne plus entendre son odieuse voix calme, ni voir davantage sa bonne mine. « Mais où ont-ils conduit Marie-Thérèse ? » demanda Raymond brutalement, alors qu'ils auraient dû le remercier, car enfin il avait été le plus habile. « Vous le savez bien, la maison du serpent !» « La maison du serpent !» s'écria le jeune homme. Il saisit de sa main crispée la manche de Natividad. « Vous m'avez parlé de cette maison-là. Qu'est-ce que c'est que cette maison-là ?»« Oh, cette maison-là, répondit Natividad dans un souffle. C'est l'antichambre de la mort.